Natacha Polony et Alain Duhamel.
Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour. On évoque effectivement cette rencontre qui doit avoir lieu entre la semaine prochaine entre Madame Borne et les syndicats. On est au lendemain de la 10e journée de mobilisation avec une participation forte, certes, mais moins intense que jeudi dernier. Un taux de grévistes aussi en baisse, Alain. Est-ce qu'on peut dire, on peut s'interroger en se disant c'est le début de la fin?
Disons que ça n'est pas un pronostic, c'est une hypothèse au stade où on en est, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce qu'effectivement, comme vous le disiez, la participation aux manifestations a baissé tout en restant importante. Mais surtout parce que le pourcentage de grévistes est, lui, devenu exceptionnellement faible, ce qui veut forcément dire quelque chose. Bon, ensuite, parce qu'on sait qu'il va y avoir ces rencontres à Matignon, plus tard à l'Élysée. Alors, je ne suis pas sûr qu'elles vont déboucher sur grand-chose, mais c'est déjà un symbole de ce que quelque chose n'est pas terminé, etc. Bon, il y a surtout, et c'est évidemment ça l'essentiel, le fait qu'on sait maintenant que c'est le vendredi 14 avril que le Conseil constitutionnel dira si la réforme peut être validée ou doit être, au contraire, censurée. Et là, je pense qu'il y a deux hypothèses. Si elle est validée, je pense que ça sera effectivement le début du commencement de la fin du mouvement. Si, en revanche, elle est censurée, ça sera la fin de la réforme complètement, qui sera enterrée.
Natacha Polony.
Il y a plusieurs points, en fait. Il y a la question du nombre de grévistes. Je pense que les gens, tout simplement, n'en peuvent plus parce qu'il y a un moment où il faut vivre.
Mais c'est
Ils
très
n'ont
important.
Pas le choix. Et c'est vrai que ce gouvernement a joué très clairement la durée en se disant il y a un moment où les grévistes vont craquer.
Puis il y a l'inflation.
Et c'est classique.
Puis il y a l'inflation.
C'est classique. Deuxième point, il y a la dimension des violences dans les manifestations. Mmh. Et là aussi, hélas, la stratégie du pourrissement est en train de jouer, c'est-à-dire qu'on a très bien vu qu'à partir du moment où le 49-3 est passé, la situation s'est tendue, et à partir du moment où la situation se tend, les gens qui ont peur des violences n'osent plus aller manifester. Donc on a un effet mécanique qui est une pression et une tension qui éloigne petit à petit les modérés. C'est d'autant plus dangereux que ça risque de se jouer aussi sur le front syndical. C'est-à-dire que sur le front syndical, on voit qu'il est en train de se passer à la CGT ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire que les plus radicaux sont en train de reprocher, c'est très rare dans l'histoire, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de la CGT, que le rapport d'activité soit retoqué.
Absolument.
Il l'a été parce que, en gros, il est reproché à Philippe Martinez d'avoir été absolument parfait, c'est-à-dire d'avoir joué le jeu de la démocratie et des institutions.
Ben oui,
et les plus radicaux lui disent, vous n'avez rien obtenu. Ouais. Mais oui, mais ça, ça va se payer. Vous l'avez dit maintes fois ici,
oui.
Alain. Nous l'avons dit, on le dit en permanence. Ça va se payer le fait de dire, en gros, quand vous jouez le jeu, que vous êtes modéré, vous n'obtenez rien.
Alors, d'une part, on verra si à l'occasion de tout ça, puisqu'il y a quand même plusieurs hypothèses, je commençais par là, si à l'occasion de tout ça, notamment Laurent Berger sera capable ou pas d'arracher... Arracher quoi ? Arracher soit des concessions supplémentaires, soit du temps, soit... Mais je veux dire, ça n'est pas écrit. L'histoire n'est pas écrite.
Heureusement que c'est...
Oui, non, mais donc, il y a aussi cette hypothèse-là, l'hypothèse selon laquelle il finirait par y avoir une forme de dialogue et il y aurait une évolution des choses. On peut pas l'écarter. Mm-hmm. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais on ne peut pas l'écarter. D'autre part, je pense qu'il faut quand même, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, reconnaître que le préfet de police a fait ce qu'il a pu depuis, disons, deux semaines, pour que, malgré la radicalisation malheureusement inévitable à ce stade-là, on essaye de limiter les risques au maximum. Et je pense que, par exemple, pour la dernière manifestation, ça a été, de ce point de vue, spectaculaire, mais efficace. Et que ce que moi, je redoutais, en tout cas, avant cette manifestation-là, qui était que ce soit celle d'une explosion de violence, qui était là aussi, ça n'était pas une certitude, c'était une hypothèse. Et franchement, je redoutais ça. Et j'étais content de voir, non pas que tout se passe toujours idéalement, évidemment, mais qu'en gros, il y avait une volonté d'éviter le pire en permanence. Et ça, je trouve qu'il faut le relever parce que ça n'a pas toujours été, dans les conflits sociaux de ce genre, le cas de tous les gouvernements.
Mais regardez, on pose la question de savoir est-ce que c'est le début de la fin. Or, le dernier sondage Elab, BFM TV, qu'on a révélé cet après-midi, montre que les Français souhaitent que la mobilisation continue. Et le soutien à la contestation de la réforme augmente même, plus 9 points, ce qui est inédit sur la longueur dans les sondages.
Pas du tout à la violence.
Non, pas du tout à la violence. Même s'il y en a près d'un tiers qui
font la différence entre les deux.
Oui, mais bien sûr. Et heureusement qu'ils font la différence. Et ils ont tout à fait raison de le faire, malgré un contexte où, de la part du gouvernement, de la part d'Emmanuel Macron, il y a eu une confusion volontaire entre les manifestants et ceux qui étaient violents. C'est-à-dire qu'on a assisté à dans l'interview d'Emmanuel Macron, une espèce de brouillage des catégories qui consistait en gros à expliquer que une fois que c'était voté, ceux qui jouer la posture de l'ordre face à des factieux dont on savait pas très bien si c'était uniquement les Black Blocs ou tout simplement ceux qui s'opposaient à un déni de démocratie.
En tout cas, pour nous, c'était les Black Blocs.
Non mais sauf que la question n'est pas pour nous.
Ah bah si, c'est important.
C'était. Le problème est que les Français continuent à être opposés farouchement à cette réforme et ils vont considérer, même s'il y a un épuisement, ce qui n'arrivera peut-être pas, je n'en sais rien, mais on sent quand même que les difficultés financières font qu'il n'est pas possible de maintenir un mouvement long comme ça. Et c'est ce sur quoi joue le gouvernement.
Le gouvernement parie sur plusieurs choses. Il y a le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel valide, ensuite, il va y avoir les vacances de Pâques, qui démarrent d'ailleurs dès la semaine prochaine pour une zone.
Stratégie du pourrissement.
Voilà. Ensuite, les week-ends de mai. Il y a l'inflation. Oui. On voit qu'on va vers un trimestre très compliqué, notamment pour l'alimentation. Non, et c'est quand même une préoccupation du quotidien.
Dans une affaire de ce genre, évidemment, chacun utilise au maximum ses armes. Et le gouvernement a utilisé au maximum ses armes en ce qui concerne la procédure parlementaire. On en a parlé 10 fois, il utilise ses armes aussi en ce qui concerne la dissuasion par la violence, la dissuasion par l'inflation, etc. Et dans le camp d'en face, évidemment, ils utilisent aussi leurs armes. Et d'ailleurs, je trouve que la façon dont la coordination des syndicats a fonctionné, je trouve qu'ils utilisaient efficacement et intelligemment leurs armes et je m'en félicitais.
Madame Borne qui propose.
Alain,
vous savez même pas ce que j'avais. Madame Borne propose aux syndicats de venir la voir.
C'est mon réflexe quand
de venir la voir. Et visiblement, il n'y a que Laurent Berger qui veut venir la voir, mais pour parler des retraites.
Oui, non, mais bien sûr, il y a un problème soit d'incommunicabilité, soit aussi de jeu de rôle. Laurent Berger, il veut montrer qu'il est totalement contre cette réforme, mais qui demeure un homme avec qui il faut parler, même avec qui on doit parler, avec qui on est obligé de parler. Il est l'homme de France avec qui le gouvernement doit le plus parler. Je pense que ça, c'est son message. Et Elisabeth Borne, alors ça, l'idée de glorifier le 49-3 et ensuite de rejeter le 49-3, je dois dire que dans ma vie politique, j'ai rarement vu quelque chose de ce genre.
Qu'Elisabeth Borne
je veux dire que ça pose vraiment un problème de compétences politiques élémentaires, quand même.
D'accord avec ça, Natacha Polony ?
Non, mais tout le monde,
Elisabeth Borne est disqualifiée aujourd'hui.
Elisabeth Borne.
Parce qu'elle a une feuille de route.
Qu'elle s'était plantée politiquement, qu'elle s'était plantée dans la communication, qu'elle s'était plantée dans la compréhension du pays. Mais le problème, c'est qu'elle avait été choisie pour ça. En fait, elle avait été choisie. Elle a été choisie pour toutes les raisons qui font qu'elle s'est plantée. C'est-à-dire que c'est une techno. C'est quelqu'un qui ne comprend rien à la démocratie et à la volonté du peuple. Elle est là pour appliquer des règles et elle a été choisie pour ça. Et elle n'est pas politique et elle a été choisie pour ça. Alors juste, Alain, je termine simplement.
Avec plaisir.
Merci, Alain. Non, mais simplement, vous avez dit tout à l'heure. Quand on est, enfin, ceux qui sont dans l'autre camp, c'est-à-dire en gros, le camp du gouvernement et le camp de la contestation.
Du mouvement.
Le problème est que le camp de la contestation, c'est 70% des Français.
Ça ne m'a pas échappé.
Et c'est peut-être ça qu'il faut rappeler en permanence. C'est-à-dire que, encore une fois, je le dis, quelle que soit l'issue, il y a un énorme problème démocratique qui n'est pas résolu et qui va se payer soit dans les urnes, soit par un mouvement violent, maintenant, après, on ne sait pas quand. Donc, ce gouvernement a commis une faute. Et cette faute-là, elle laissera des traces, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, qui de toute façon sera très certainement une décision complexe, avec des avis contradictoires au sein du Conseil constitutionnel.
Oui, mais, ça,
mais
ça
quand on voit la violence qui est en train de monter,
ça valeur,
même
ça,
contre les membres du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il y a dans ce pays des germes extrêmement dangereux et que cette séquence politique les aura encore augmentés. Je trouve ça terrifiant.
Alors c'est deux choses. D'une part, on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Il n'y a aucun doute. On est face à deux légitimités authentiques. Et le problème est que ces deux légitimités sont authentiques. S'il y en a une qui était faisandée, s'il y en a une qui était artificielle, ça ne serait pas la même chose. Mais il y a deux légitimités qui sont réellement de légitimité qu'on doit respecter. Maintenant, si vous voulez me dire que, quelle que soit l'issue, je dis bien quelle que soit l'issue, d'une part, on vient d'assister à une démonstration théâtrale de dysfonctionnement démocratique depuis 3 mois. Et je vous le dis volontiers, parce que c'est ce que je craignais depuis le début, et ce que je pense depuis quelques jours. Donc oui, et si la réforme est appliquée, ce qui est possible, puisque ça correspond à une des deux légitimités, il en sortira un ressentiment effrayant, et il se passera ce qui s'est d'ailleurs passé dans d'autres pays, c'est-à-dire que si tout se passe bien, les gens se vengeront dans les urnes, et si tout se passe mal, bah, ils se vengeront en dehors.
Je pense que... Il suffit dans ces cas-là de rappeler un élément face à une situation complexe. Quand il y a plusieurs légitimités qui s'affrontent en démocratie, la seule solution, c'est de retourner au peuple.
Bah, c'est de faire c'est en sorte de demander au peuple son avis. C'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel Macron dans Pif Gadget. Pardon, oui. C'est ce qu'il a dit à Pif Gadget.
Et c'est pas une, blague.
Non, c'est pas une blague.
C'est
il y a
pas
un
blague,
mois,
c'est ça le pire.
Une interview accordée à nos confrères de Pif Gadget en disant
qu'il est
dans une crise importante, il est normal de retourner vers le peuple, dit le chef de l'État.
Oui, c'est quand même dommage qu'il ne se l'applique pas.
Oui, mais on peut s'y retourner différemment. Dissolution, référendum, démission du président.
Non, mais il y a beaucoup de façons.
C'est curieux, il n'utilise aucune de ces solutions que vous venez
de citer. Dans l'interview de Pif Gadget, il est questionné par un jeune sur la démission éventuelle du président.
On peut démissionner, absolument. Non, mais il y a.
Je pense que c'est un scénario qui n'a pas été retenu
depuis. Heureusement qu'il reste ça. Mais dans le mauvais fonctionnement de notre démocratie, il y a quand même un certain nombre de sorties possibles et de sorties par le.
On a l'impression pour l'instant qu'elles sont toutes rejetées. Pour l'instant.
Merci. Anna Duhamel, Natacha Polony, un œil sur la une de Marianne.
Oui,
justement,
sur la une de Marianne, qui résume exactement ça. Non, ça c'est celle de cette semaine, l'appel pour un référendum. Celle de demain, c'est le mépris et jusqu'où ira la colère des Français. Voilà, et on analyse justement les conséquences de tout ça.
Merci Natacha Polony.